Midi 21 minutes, vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Je suis rejoint en studio par le journaliste Philippe Zambelmar. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Alors Philippe, mardi soir, il y avait une séance du conseil municipal à laquelle tu as assisté. Peux-tu nous rappeler qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour lors de ce conseil?
On a parlé de beaucoup de choses dans les deux séances, celle de la communauté maritime et de la municipalité des îles. Donc c'est deux grosses séances avec beaucoup de résolutions. Si je résume un peu, qu'est-ce qui est vraiment significatif? Déjà, la communauté maritime renouvelle sa politique MADA, donc Municipalité Amie des Aînés. Donc, ce processus-là qui est en cours, on va avoir la chance d'y revenir sur nos zones un peu plus en détail. Évidemment, il y a de l'argent aussi qui est accordé en différents projets dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Ça non plus, là, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. Aussi, on va parler de reddition de comptes en ce qui a trait au Fonds Région et Ruralité. Évidemment, le gros enjeu de la soirée qui attire beaucoup de gens au conseil depuis plusieurs semaines, c'est la question de la passe archipel. Donc là, on a officiellement adopté les règlements qui avaient été déposés en avis de motion la semaine dernière pour rendre volontaire le paiement de la passe archipel et finalement enlever certains éléments, du moins temporairement, qui posaient problème avec ce projet-là pour plusieurs citoyens et citoyennes. Évidemment, ça fait toujours pas l'unanimité. Hein. Donc même si on a, changé la forme que prend la passe archipel en 2024 et peut-être plus loin, on verra. Pour l'instant, il y a encore du monde qui souhaite tout simplement son abandon. Mais bon, on verra évidemment qu'est-ce que la municipalité proposera à l'avenir.
Le maire, si je me souviens bien, en lisant ta nouvelle, expliquait que justement, il comptait en tout cas que ça allait se faire à travers un processus de consultation.
Oui, et c'est ce qui a été répété là, de bout en bout mardi soir. Je me suis entretenu avec le maire hier, mais avant d'y aller là, je vais juste aller en rafale parler de certaines choses qu'il y avait aussi à l'ordre du jour. Au centre de gestion des matières résiduelles, on va investir dans une nouvelle plateforme de compostage. Aussi, on a reçu la démission officiellement du côté municipal dans la séance de la municipalité des îles. On a reçu officiellement la démission de M. Gaétan Richard. On a confirmé qu'il allait avoir des élections partielles pour le siège de conseiller de la Grande Entrée et pour celui du Havre-Aubert, donc le 8 septembre prochain. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Aussi, on a autorisé l'acquisition de 5 propriétés dans le secteur de l'écoquartier, du futur écoquartier. Donc, c'est un projet qui continue de cheminer. On a également... on va offrir gratuitement un terrain à l'Office municipal d'habitation en vue de la construction de 24 unités de logements abordables. Donc ça, évidemment, c'est le genre de choses qu'on voit venir depuis longtemps, mais là, il y a des processus qui continuent d'avancer.
Ils commencent à se concrétiser, justement.
Exactement. Aussi, là, il va y avoir des petits investissements là, du côté du site de la côte pour faire de la peinture, rénover la toiture, donc pour entretenir ces bâtiments-là. Et on sait aussi que le projet de nouvelle salle communautaire à la grande entrée, ça continue de progresser, donc une nouvelle étape franchie avec un contrat de gré à gré pour des services en géotechnique. Sans plus tarder, je vous laisserai entendre l'entrevue que j'ai faite hier avec M. Valiquette, là, qui normalement, on avait pris l'habitude d'avoir ces cette entrevue-là en direct. Il y avait une programmation assez particulière sur le bateau. Très belle programmation d'ailleurs. Je tiens à saluer les collègues là-dessus. J'ai commencé donc par me demander à M. Valiquette c'est quoi les prochaines étapes en lien avec la passe archipel et le parc régional éclaté?
En fait, le règlement, il rend le paiement de la passe archipel sur une base volontaire, d'une manière provisoire, mais ça s'arrête pas automatiquement après 2024. Ça va prendre une nouvelle résolution du Conseil pour changer ce règlement-là, pour le rendre effectif, pour qu'il redevienne obligatoire, qu'il prenne une autre forme. Ça va prendre une adoption de règlement. Et moi, ce que je me suis déjà engagé à faire, au vu et au su de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de bruit, mais faut quand même écouter les points valides qui sont soulevés par la population. Pour moi, il n'est pas question de retourner à modifier ce règlement-là sur le paiement de la passe archipel sans un processus de consultation publique au préalable.
Quelle forme ça pourrait prendre, ces processus de consultation-là? Est-ce qu'on va aller, mettons, par exemple, dans les villages, rencontrer la population? Est-ce que ça va être des rencontres à la mairie, à Capomel?
Pour l'instant, on a l'intention. Le moyen, maintenant, il est encore à définir.
Et est-ce que vous avez eu des nouvelles du côté de Transport Canada par rapport aux autorisations pour l'aéroport?
Écoutez, les discussions continuent. On a des rencontres de prévues avec Transport Canada, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de faire un état d'avancement ou de situation de ce côté-là, non.
J'aimerais revenir peut-être sur le départ de Gaétan Richard. Bon, ça s'ajoute évidemment au siège laissé vacant par Mme Linda Lebel plus tôt ce printemps. Deux sièges vacants au Conseil. Quel impact est-ce que ça a sur votre travail comme élu et sur la répartition de la charge de travail au sein du Conseil?
Ben, c'est une très bonne question parce que effectivement, avec des démissions au sein du Conseil municipal et de la communauté maritime, nous, il faut qu'on s'assure d'avoir quorum pour avoir le droit d'adopter les résolutions qui sont souvent très importantes pour l'ensemble de la population et particulièrement pour certains partenaires. On avait Mme Nancy Clark, mairesse suppléante de Grosse-Île, en remplacement de Joy Davies, qui ne pouvait pas être là. Et écoutez, si Mme Clark n'avait pas été là, ben on ne pouvait pas tenir la séance de la communauté maritime. Donc, toutes les résolutions qu'on a adoptées hier pour faire avancer des projets collectifs et pour la communauté maritime, ben n'auraient pas pu être adoptées. Donc, ça a cet impact-là. Là, on a quorum, on avait quorum juste. Trois conseillers plus le maire pour le conseil de la municipalité, c'est le minimum. Sinon, on ne peut pas adopter de résolution. Et ça, ben, ça a de l'impact pour notre milieu, là, s'il fallait en arriver là. Donc, effectivement, ça va être très important de combler ces postes-là, ces sièges-là, lors des élections partielles qu'on a annoncées qui devraient se tenir. En tout cas, la date prévue, c'est le 8 septembre prochain pour les élections de sièges des conseillers.
Il y a une question aussi qui vous a été posée à la fin de la première période de questions, mais à laquelle vous n'avez pas offert de réponse. C'est concernant la table de consultative jeunesse qui avait été créée en mai 2021. Est-ce que cette table consultative jeunesse-là est encore active?
Ben écoutez, moi je suis là depuis un an, j'ai pas eu de rencontre avec la table consultative jeunesse. À ma connaissance, l'organisme existe là sur papier. Est-ce que dans les faits ils se rencontrent? Est-ce que ils font partie du forum des partenaires à tout le moins? Écoutez, je vais m'occuper du dossier. Effectivement, c'est sur c'était une très bonne question de la citoyenne qui l'a posée. Effectivement, si on doit agir nous du côté de la communauté maritime pour relancer cette table-là, pour inciter peut-être des jeunes à s'impliquer sur cette table-là, ben moi je suis tout à fait pour ça. Là.
Il y a aussi hier, on l'a vu, la décision d'appliquer une limite de 30 minutes aux périodes de questions, tant de la communauté maritime que de la municipalité des îles. Ça a suscité, certaines réactions négatives parmi les personnes présentes hier soir. Vous avez expliqué en retour qu'il y avait eu des demandes en ce sens qui avaient été faites par des gens qui vous avaient écrit ou communiqué avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez jugé que c'était nécessaire de mettre cette limite-là de 30 minutes?
Ben écoutez, depuis il y a quelques séances là maintenant où on voit des périodes de questions qui durent au-dessus de 2 heures, presque 3 heures des fois. Donc là, à un moment donné, il y a un certain décorum là à respecter dans un conseil municipal. Et veut pas au cours des dernières semaines, ben écoutez, des applaudissements ou des huées où on me pose pas de questions finalement, on pose pas de questions au conseil, mais on fait des déclarations, des commentaires, c'est correct. Mais à un moment donné, faut se rappeler c'est quoi l'objectif d'une période de questions. Donc, une période de questions au conseil municipal, c'est l'opportunité pour les citoyens d'interroger les élus sur les décisions qu'ils ont prises. Et les élus sont là pour prendre des décisions. C'est pour ça que les conseillers et le maire se font élire par la population. C'est ça notre mandat. Et en même temps, on doit rendre des comptes, expliquer aux gens pourquoi on prend ces décisions-là. Mais là, à un moment donné, on est en train un peu de dénaturer finalement cet objectif-là, le rôle d'une période de questions, dans le fond. Puis on a toujours été assez souple là, dans l'application du règlement. Le règlement, ce qui encadre les périodes de questions en séance du conseil municipal et de la communauté maritime, il dit période de questions de 15 minutes qui peut être allongée de 15 minutes et il y a une limite de 3 minutes par question. Bon. Nous, ce qu'on a dit, c'est, OK, on donne la demi-heure tout de suite par séance. Donc, ça fait quand même une période de questions de 30 minutes pour la communauté maritime, une autre période de questions de 30 minutes pour la municipalité des îles. Et ça, lorsqu'on regarde ailleurs ce qui se fait dans d'autres municipalités, ben écoutez, vous avez des municipalités où il faut envoyer les questions à la hausse, il faut s'inscrire à la période de questions pour avoir le droit de prendre le micro. Il y a des municipalités qui obligent les citoyens à poser des questions uniquement sur les points de l'ordre du jour. Donc, on est encore assez large. Et comme je l'ai dit hier, au conseil, à la municipalité, on a reçu beaucoup de demandes de citoyens qui disent « Là, écoutez, faites quelque chose pour recadrer les périodes de questions. » Donc, on fait quelque chose, on applique le règlement. On ne l'a pas changé, on fait juste de l'appliquer.
Il y a quand même eu une nouvelle étape de franchie dans le projet d'éco-quartier. On va procéder à l'acquisition de 5 propriétés dans le secteur du futur éco-quartier. Et aussi, on a accordé un terrain à l'Office municipal d'habitation pour la construction de 24 logements. Peut-être si vous voulez commenter ce dossier-là un peu.
Ben écoutez, le projet d'éco-quartier, ce qui est bien, c'est que c'est un gros chantier et c'est un des dossiers qui avance très bien du côté de la municipalité. Écoutez, on a eu des annonces. Projet de l'OMH des Îles-de-la-Madeleine a été retenu dans le programme d'habitation abordable du Québec ce printemps. Donc, on a un espace à l'éco-quartier, donc on a cédé le terrain à l'OMH justement pour ce projet-là. Ensuite de ça, la convention d'entente de 10 millions avec le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ben écoutez, nous a permis de franchir cette étape-là, donc de faire des acquisitions de l'eau. On va avoir une déconstruction de bâtiments qui va s'amorcer cet automne, des travaux de décontamination, encore là subventionnés à 100% par Québec. On va avoir à ce moment-là aussi accès à un micro-réseau pour les bâtiments qui vont se construire là. Écoutez, c'est un projet extrêmement emballant, moi, je trouve, pour les Îles-de-la-Madeleine, parce que vraiment, on va avoir un centre-ville où on va avoir de la disponibilité, où on prépare nos choses comme il faut avec un plan particulier en urbanisme, un plan d'implantation architecturale dans le centre-ville pour s'assurer que les bâtiments et les commerces et les habitations qui vont se construire là vont être compatibles avec les usages prévus. Non, écoutez, c'est un projet qui avance bien, c'est un gros projet, ça va prendre du temps, mais il avance très bien, là. Donc ça va être un gros plus pour l'ensemble de la communauté, parce que on a justement un secteur vivant dans le centre-ville où on est capable de dire à des promoteurs puis à des commerçants ou à des développeurs immobiliers qui sont intéressés à faire des projets en habitation ou commerciaux, ben là, on a un beau secteur avec des terrains qui vont être prêts, disponibles, propices à cette construction-là pour le bénéfice de nos citoyens dans le centre-ville de Cap-aux-Meules. Non, c'est un très beau projet pour l'ensemble de notre communauté, pas juste pour les citoyens de Cap-aux-Meules, là.
Peut-être en terminant, sur la question de la mise aux normes sanitaires des résidences, bon, on sait qu'il y a plusieurs propriétaires qui sont pas aux normes au niveau de leurs installations sanitaires, qui avaient reçu des avis qui étaient censés se mettre aux normes, et il y avait eu un plan municipal qui avait été déployé pour réduire justement le coût des tests de sol et tout ça pour ces personnes-là. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là de la mise aux normes sanitaires des résidences aux îles?
Ben, en fait, il y a encore beaucoup de résidences non conformes qui n'ont pas nécessairement remis leurs tests de sol, mais nous, ce qu'on avait demandé, c'était au moins pour que ces gens-là prennent un engagement à le faire. Parce que, veut ou pas, peu importe la stratégie ou l'initiative qu'on va déployer ou qu'on veut déployer du côté municipal, les tests de sol, c'est un incontournable. On peut pas travailler sans tests de sol. C'est dans la loi. Puis c'est pas la municipalité qui décide ça, c'est carrément la loi sur la qualité de l'environnement au règlement Q2R22. Ensuite de ça, effectivement, on travaille sur des idées, là, en tout cas, de comment on peut être optimal pour aider nos citoyens. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup quand j'étais en campagne électorale. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent auprès des citoyens depuis que je suis élu. Écoutez, on travaille là-dessus. J'ai fait des représentations auprès du gouvernement, différents ministères du gouvernement pour aller chercher des options. Pour l'instant, c'est en travail. C'est un gros dossier. C'est assez compliqué. Puis on veut être sûr de pouvoir faire le maximum pour nos citoyens, mais tout en restant équitable pour tout le monde et tout en respectant la capacité de payer aussi des citoyens. Donc, il n'est pas question de prendre de l'argent, par exemple, du fonctionnement municipal pour payer des champs d'épuration ou des installations sceptiques à des citoyens. On ne pourrait pas faire ça, ce ne serait pas équitable. Mais là, on regarde nos options, on s'attend à des annonces de la part du gouvernement du Québec dans ce dossier-là. Donc, on va attendre de voir avec quelle carte on peut jouer là, finalement pour en arriver avec un plan. Et lorsqu'on sera prêt, ça va me faire plaisir d'annoncer ça à l'ensemble de la population.
Donc, M. Anthony Valiquette, maire des Îles et président de la communauté maritime, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.